L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Bon week-end à vous toutes et à vous tous et bienvenue. C'est BFM Business et c'est l'atelier numérique. Et nous voilà partis pour 2 heures dédiées aux nouvelles technologies, à l'économie numérique. Bienvenue à vous toutes et à vous tous en ce 4 juillet. Ravi de vous retrouver, bien sûr. Toute l'équipe de l'atelier est là. Tout à l'heure, nous retrouverons Antoine Cyr pour son crash test. Le thème sera Charolais, les amis. Il va vous expliquer tout ça, pourquoi. Voilà. Ça sera en toute fin d'émission. Antoine, qu'on retrouvera aussi tout à l'heure pour le Cyber Gadget. Et autour de cette table, les amis, nous avons Lila Megraoua, Jean de Chambure. Nous avons aussi Nathalie Doré depuis San Francisco, depuis l'atelier US. Bonjour à vous trois.
Bonjour.
Bonjour.
Et nous avons une nouvelle arrivée dans l'atelier numérique. Elle s'appelle Pauline Canteneur. Bonjour Pauline.
Bonjour, merci
pas
de m'accueillir.
Pas stressée, tout va bien Pauline?
Non, pas du tout.
Pauline qui va inaugurer ses premières secondes de radio dans un instant avec sa première news. Bien répété, ça va, tout va bien?
Tout va bien.
Bon, d'accord. Alors au menu de cet atelier, dans un instant donc, le dico facétieux, Super Gadget, notre focus startup, notre enquête de l'atelier Jean, ça va être passionnant tout à l'heure. On va parler de l'impact des écrans sur la qualité de notre vue, sur notre santé visuelle, avec nos invités.
Ouais, il y a des solutions, mais avant on va essayer de comprendre où on en est, parce que c'est pas si simple.
La transformation numérique d'Engie, ce sera notre web stratégie. On va parler aussi de transformation digitale d'un grand groupe. C'est le groupe de La Poste, que l'on connaît, qui s'est radicalement métamorphosé. On va en parler tout à l'heure avec nos invités et Lila. Notre dossier de l'atelier, on va parler de biotech qui investit dans le business de la sécurité. Et puis notre world tour, direction le Maghreb, tout à l'heure. Éric Le Bourlou sera là avec bien évidemment notre petit rendez-vous du côté de la rédaction de Zeronet.com et puis le crash test d'Antoine. Soyez les bienvenus toutes et tous, c'est parti pour l'atelier numérique et on commence par l'actu de la semaine vue par l'équipe de l'atelier et on va commencer par l'atelier US, par San Francisco avec Nathalie Doré.
Oui, alors moi cette semaine je voulais vous parler du LinkedIn de la musique classique. Voilà, je sais pas si vous connaissez Hello Stage, mais c'est donc une start-up américaine basée dans la Silicon Valley.
C'est un peu pointu.
Oui, mais vous allez voir, ça s'adresse donc en premier lieu aux musiciens, mais ça s'adresse aussi à tous les gens qui aiment la musique classique. Alors, comment ça marche? Ça marche comme LinkedIn. Les musiciens s'inscrivent sur la plateforme. Il y a une inscription gratuite et après, il y a un format, une formule premium s'ils veulent plus de services. Et ils constituent leur profil. Alors, on peut voir leur bio, on peut voir les salles dans lesquelles ils vont se produire, on peut voir des informations sur leurs équipes, sur des vidéos, sur ce qu'ils ont fait. Enfin, c'est très, très riche, très complet. Mm-hmm. Et c'est une plateforme qui a été fondée en 2013 et qui a été mise en ligne à l'automne 2014, donc qui est assez récente, qui a un an. Mais qui a déjà atteint 8000 musiciens sur 89 pays. Donc tous ces musiciens sont sur Hello Stage et vous pouvez aller les découvrir plein d'infos sur eux. Alors pour eux, comment utiliser la plateforme? C'est une façon de trouver un agent, c'est une façon de recruter un membre de l'équipe, oui, de trouver une salle où jouer. Bref, une belle palette de services pour ce réseau social donc qui est assez pointu comme vous le disiez. Alors le modèle, il est basé sur la souscription. Comme je disais, il y a un premier format qui est gratuit avec de la publicité et ensuite qui peut être payant avec une formule premium, donnant accès à plus d'espace de stockage, notamment pour que le musicien puisse publier ses vidéos. Ils ont aussi un modèle à la commission, puisqu'ils prennent un petit pourcentage sur le business qui est généré via leur réseau, via la plateforme. Voilà, donc c'est
Hello
une belle
Stage.
Start-up.
Voilà, ça s'appelle
Hello Stage. Voilà, vous Parfait. Pouvez aller sur la plateforme, elle est ouverte à tous, elle est en anglais. C'est le parti pris, même si elle est disponible donc dans plein de pays. Et ils ont plein de membres principalement. Alors le premier pays, c'est forcément les US, mais ensuite il arrive en peloton de tête l'Allemagne, le UK et la France.
Jean de Chambure je pense que Jean de Chambure devrait s'inscrire. Vous êtes musicien, Jean, non?
Un petit peu, mais
vous jouez quoi? Racontez-nous, dites-nous.
Bon, je fais un petit peu de piano, mais vraiment un petit peu.
Voilà, bah écoutez, Jean de Chambure sur Hello Stage, hein? Pas mal. Merci Nathalie qu'on retrouve dans un instant. Si nous donnions la parole maintenant à notre nouveau membre de la famille de l'atelier, Lila, Jean, qu'est-ce que vous en pensez? Pauline Canteneur.
Alors c'est parti.
Alors on y va?
Ouais.
On va parler de quoi, Pauline?
De Twitter.
Bon, je connais pas, je sais pas ce que c'est.
Vous savez pas ce que c'est. Alors je vais vous expliquer.
Ah, non,
la réalité c'est que on connaît bien Twitter pour différents usages, hein, outre le réseau social. Oui. On a vu que c'était un beau soutien aux élans démocratiques, ça s'est illustré lors des printemps arabes. On a vu aussi que Twitter ça a aidé beaucoup les marques à faire des coups marketing bluffants, et il se trouve que Twitter fait aussi beaucoup dans le domaine médical. Des chercheurs américains ont publié une étude récente. En fait, ils ont développé un algorithme qui permet d'analyser des millions de tweets et de déceler des incompatibilités entre les médicaments. Et donc, en fait, incompatibilités qui peuvent avoir des effets néfastes sur le corps humain. Et en fait, ils analysent les hashtags et ils arrivent à se rendre compte, par exemple, que si sous le hashtag Alzheimer, par exemple...
Tel médicament avait, on va dire, une incidence sur la maladie, c'est
tout
ça ?
Tout à fait. En fait, on a tous entendu parler de cette étude qui dit que la consommation de cannabis pourrait en fait enrayer la progression de la maladie d'Alzheimer. Mais il se trouve que effectivement cette chose a été découverte grâce à cet algorithme avant même d'avoir été publiée sur PubMed par exemple, qui est la grande base de données médicale.
Ah oui, donc Twitter peut être une cellule de veille en fait sur l'interaction de divers molécules.
Exactement.
Envers certaines maladies, c'est incroyable.
Et en fait, on reproche souvent à ces bases de données d'être très lentes, les processus en fait entre le moment où on découvre l'incompatibilité et où celle-ci est vulgarisée. Ça peut prendre énormément de temps. Et là, en fait, grâce à la viralité de Twitter, on est capable de tirer des sonnettes d'alarme, mais aussi de générer de l'intérêt. C'est-à-dire qu'on donne envie aux chercheurs de faire des études et de faire des tests cliniques pour se rendre compte exactement de l'impact.
Que ça peut avoir.
Exactement.
Parfait. Voilà. Alors, c'est rigolo, Pauline. Vous dites tweet.
Hein? J'ai répété pourtant et j'ai demandé.
Non. Vous dites oui. Alors on va de Twitter et alors donc les tweets, c'est pas tweet.
J'aime bien Twitter.
Désolée, c'est mon accent, Laurent. Ah, c'est peut-être ça alors.
Sûrement.
D'accord. Et c'est pour ça, Jean, que vous soutenez Pauline.
Ben oui, la Franche-Comté, c'est pas très loin.
Donc on a bien compris. Très bien. Bon, Jean, allez-y.
Bon, alors, écoutez, moi, je vais vous parler de quoi? J'en ai deux news que j'aimerais vous dire, mais la plus bizarre, parce que...
Oui, allons-y!
Presque personne...
Alors, attendez, je vais vous relancer différemment. Jean, une news bizarre, tiens.
Oui,
une
news bizarre.
Qu'est-ce que vous avez?
Donc, c'est ma première news est justement consacrée à la seconde, c'est-à-dire la fameuse seconde intercalaire, dont on a tous connu un peu.
Pour l'instant, on comprend rien du tout à ce que vous dites, mais je pense qu'on va le dénouement va arriver.
Mais c'est très simple, François.
Vous voyez, Pauline, Terre... c'était votre première news. Voilà. Vous faites tout sauf que fait Jean. En fait. Et là, vous avez tout compris. C'est parfait, c'est nickel.
Posé complet. Non.
Tweet à côté, c'est pas grave.
Vous allez voir. Mardi soir à 2h du matin, on voit très exactement à 1h59 secondes. Non, cette semaine, la semaine que nous venons de vivre.
Ah, d'accord.
Eh bien, mardi soir, juste avant 2h, il a été 2h pile et de nouveau 2h pile pendant une seconde. Pourquoi? Seconde intercalaire. C'est-à-dire que la Terre est en train de ralentir, un petit peu, pas tant que ça, mais enfin, elle ralentit. Elle tourne.
Rassurez-nous quand même, c'est pas très grave.
Non, mais vous allez voir. Elle tourne autour du Soleil, mais elle tourne de moins en moins vite. Par exemple, à l'époque des dinosaures, une journée c'était 23 heures. Là, maintenant, aujourd'hui, c'est 24 heures plus une seconde. Et donc, il a fallu, à un moment donné, pour qu'on soit très exact, rajouter
une seconde. Voilà. Oh, ah oui, d'accord.
Alors, ça a l'air de rien, comme ça, totalement insignifiant dans notre quotidien. Franchement, une seconde. Bon, mais pour que tout soit bien synchronisé entre les horloges atomiques, les horloges des satellites,
oui,
les horloges de nos téléphones.
Bien sûr.
Vous voyez, c'est un énorme chantier numérique.
Les horloges des églises, c'est moins
digital.
Grave. C'est moins grave.
Elles sont un peu épargnées parce qu'elles ne sont pas toutes digitales. Mais enfin voilà, c'est donc tout simplement pour rendre nos horloges encore plus précises qu'il y a eu cette synchronisation gigantesque autour d'une seconde qui a créé un bug d'ailleurs en 2012. Il y a eu aussi une seconde qui a été rajoutée. Ça a été moins bien rajouté, donc il y a un certain nombre de bugs informatiques qui ont eu à l'époque. Et donc voilà, c'était un événement digital.
D'accord.
Comme ça, pratiquement mineur, enfin très faible.
Qui a duré une seconde,
mais
quoi.
Très 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 compliqué à faire d'un point de vue de l'organisation de tous ces systèmes d'information.
Ah oui, regardez Lila, elle est complètement bouleversée avec cette histoire de seconde. Lila,
absolument.
Qu'est-ce que vous avez pour nous?
Je vais vous parler du portail climat, de climate portal. j'ai un accent un peu moins convaincant que celui de Pauline.
Sauf que vous dites tweet. Dites pas tweet.
Tweet,
oui,
ouais,
c'est ça,
tweet.
C'est ça.
Tweet. De la même manière que 8.
Voilà, 8. Voilà, c'est ça. Bon, et donc ?
Oui, oui. Alors, le Climate Portal, en fait, c'est une initiative qui a été lancée à l'aéroport en Suède, Arlanda, l'aéroport de Stockholm. Et en fait, l'idée, c'est plus ou moins de simuler le temps, la météo du lieu d'arrivée, de destination.
D'accord.
Je vais prendre un exemple concret. Imaginons, vous partez de l'aéroport de Stockholm, vous allez prendre l'avion vers Paris. Actuellement, canicule, il fait très chaud. Bon, vous avez donc une cabine, ce fameux portail climat, qui va simuler les conditions
de météo.
Exactement.
À notre
météo
arrivée.
De Paris. À savoir que vous allez avoir, si par exemple à Paris c'est excessivement venteux, vous allez avoir du vent projeté, du vent chaud.
D'accord.
S'il fait très chaud, il va faire très chaud. Exactement.
Wow.
L'idée, c'est vraiment
Mais
de ressentir
c'est où,
d'être
c'est dans
en immersion.
L'aéroport, ça
c'est dans l'aéroport, avant de faire le check-in. Ouais.
Tiens, c'est drôle comme tout. Ouais. Et ça marche pour toutes les destinations.
Non, alors pour l'instant ça concerne que quelques compagnies suédoises. En revanche, c'est une vraie installation qui en fait est connectée à l'équivalent de Météo France en permanence et en fait à temps
et
réel.
Qui restitue en fait ce
exactement.
Ce
donc s'il pleut,
c'est rigolo.
Ça va vous pleuvoir dessus.
Mais bien, voilà. Ça va être sympa, tiens.
C'est pas mal.
Ouais, c'est pas mal. On va retrouver Nathalie depuis San Francisco.
Oui, alors vous savez, Uber a fait beaucoup parler de lui ces derniers jours. Uber fascine certains, énerve d'autres. En tout cas, une chose est sûre, Uber inspire les start-upers. Donc moi, je vais vous parler de Doze, qui est le Uber du marketing. Mm-hmm. C'est en fait une marketplace de gens qui travaillent dans le marketing. Et ça fonctionne de la même manière que Uber. C'est une communauté, donc aujourd'hui, ils ont 6000 marketeurs dans le monde. Ils couvrent à peu près 20 pays. Et c'est le concept à la demande. Donc, vous allez demander des missions dans le marketing à la demande. Donc, c'est un fonctionnement. Imaginez le Uber pour le marketing. Vous êtes un client, vous avez un besoin en marketing. Il y a un logiciel, un algorithme puissant qui va vous trouver la bonne personne qui a la bonne compétence dans le pays où vous êtes. Donc, en fait, ils se concentrent aujourd'hui sur des missions comme améliorer le trafic naturel d'un site, avoir une présence sur les médias sociaux, produire du contenu. Donc vraiment des missions de type marketing digital classique. Et les marketeurs donc s'inscrivent sur la plateforme, travaillent donc à travers cette plateforme pour divers clients et chargent à eux de déclarer leurs revenus. Alors Doze, la plateforme de son côté, vérifie les compétences des marketeurs, un peu à la Uber qui voit si le conducteur n'a pas eu d'infraction, etc. Il faut remplir plusieurs critères pour être accepté sur cette plateforme. Et c'est une société française qui marche avec des fonds américains et qui a la majorité de ses clients aujourd'hui aux US. En termes de clients, donc les personnes qui utilisent la plateforme aujourd'hui sont principalement des entreprises de taille petite ou moyenne. Et aussi, un peu comme à la Uber, le marketeur qui offre donc ses services sur cette plateforme est noté. Et donc, c'est un mix d'étoiles et d'ancienneté qui lui permettent d'avoir des nouvelles tâches attribuées. Donc c'est assez malin, très très semblable au concept de Uber. C'est donc aussi une nouvelle façon de travailler en mode entreprise étendue et le digital n'a pas fini de bouleverser nos modes de travail.
Merci beaucoup Nathalie Doré. Jean de Chambure, une dernière petite news pour la route.
Oui, écoutez, c'est plus un mini pitch d'un film au cas où vous ne l'auriez pas vu, qui est sorti au début du mois de juin, qui s'appelle Ex Machina. Est-ce que l'un d'entre vous l'aurait vu par hasard ?
Du tout.
Non.
Ex-Machina.
Ça vaut la peine.
Moi, je l'ai vu, j'ai adoré.
Oui, vous avez adoré. Écoutez, il se trouve que je l'ai vu dans l'avion. Ça vaut la peine, je trouve, parce que c'est un scénario autour de l'intelligence artificielle, de ce que ça pourrait être, qui est quand même fort, fort intéressant. Bon, le pitch, c'est un
de très belles images, une très belle photo.
Alors, c'est super beau. En plus, c'est très très bien filmé. Il y a des très très beaux. Et puis même la réalisation de ce robot qui est un robot femme et qui est en même temps artificiel, en même temps une vraie femme, est très très étonnant. Et voilà, ce jeune informaticien gagne un concours, il se retrouve avec un week-end dans une propriété sauvage qui est la propriété du brillant président du géant de l'internet pour lequel il travaille. Et là, tac, il doit tester lui en tant qu'humain jusqu'à où cette intelligence artificielle est proche de nous, quoi. Je vous en dis pas plus. Il faut voir ce film-là. Ça fait vraiment réfléchir quand même. surtout, là je le connecte avec une autre petite news, à une époque où on voit que les méga calculs, les méga calculateurs sont en train de faire progresser les fameux réseaux neuronaux, c'est-à-dire les réseaux des robots qui vous répondent automatiquement sont en train, notamment grâce à Google, grâce ou à cause, on ne sait pas, mais sont en train de progresser de plus en plus. C'est les fameux chatbots, vous savez, les chatbots qui vous répondent automatiquement, mais là, ils ont... gagner une étape supplémentaire grâce à Google.
Donc ils sont plus intelligents encore.
Ils sont plus intelligents, ils répondent mieux et ça s'approche vraiment d'un dialogue avec un humain. Alors avec des trucs un peu bizarres qui arrivent au milieu des dialogues, mais enfin voilà, ils sont en train de progresser sur ce sujet très fortement.
Voilà, et puis tiens, puisqu'on parle d'intelligence artificielle, se déroulait ces derniers jours à Lyon le salon InnoRobot, hein, qui est un salon très intéressant, un salon d'envergure internationale à Lyon. Alors certes pas très très grand, mais toujours très intéressant parce qu'il y a tous les acteurs de la robotique, à la fois européenne mais aussi mondiale, qui viennent. Et encore une fois, cette édition, était passionnante. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. On revient dans un instant sur BFM Business pour la suite de cet atelier numérique avec Jean de Chambure, le dico facétieux du net. Jean, vous êtes prêt pour le dico?
Oui.
Et puis les gadgetos d'Antoine Cyr qui va nous rejoindre. Antoine qu'on retrouvera aussi tout à l'heure, vous le savez, pour notre crash test. On revient dans un tout petit instant sur BFM Business pour la suite de cet atelier. À tout de suite.
BFM Business Weekend. L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Dans un instant sur BFM Business, dans cet atelier, ce sera le cyber gadget d'Antoine Cyr, les amis. Mais auparavant, il est là, concentré sur son écran, Jean de Chambure, pour son dico facétieux du net. Jean, nous allons nous arrêter sur quelle lettre cette semaine?
Alors, nous allons nous arrêter sur la lettre A ou la lettre T, je ne sais pas très bien. Ah, mais disons bon. T, parce que franchement, c'est ça qui en fait la...
Et puis en plus, vu l'heure qu'il est, c'est un peu l'heure du thé. Donc
c'est l'heure du thé, voilà. C'est l'heure des Turcs, c'est l'heure des Turcs mécaniques et c'est l'heure d'Amazon.
Des Turcs.
Oui, d'accord. Tout, tout ça est cohérent. Pourquoi je vous parle de tout ça? À l'instant, il y a quelques nanosecondes, on se parlait de l'intelligence artificielle, du fait que de plus en plus maintenant, les robots, oui, avec le supercalcul allaient nous amener à avoir des dialogues avec eux qui pourraient sembler être vrais. Bon, on n'en est pas encore tout à fait là, mais effectivement, ça pourrait être très très fort. Mais il y a aussi toute une autre partie de l'économie numérique, du digital, qui est liée à ces travailleurs, ces artisans, ces couturiers en fait du commerce en ligne, que sont en fait ce qu'on appelle les personnes qui sont liées à l'Amazon Mechanical Turk ou Turk Mécanique d'Amazon. Donc il y a un nom très spécifique pour eux. Je crois que c'est les Turkey, tout simplement les Turkey. Donc c'est ces personnes en fait qui travaillent principalement en Inde, mais aussi aux États-Unis. Il y a eu un reportage très intéressant sur ce sujet-là et qui vont corriger en fait des erreurs, c'est-à-dire une mauvaise traduction de texte, c'est-à-dire une transcription, une identification qui est inexacte, une modification d'une image. Vous savez, ça vous arrive parfois sur un site.
Mais c'est des correcteurs de site.
C'est des correcteurs, voilà, c'est des correcteurs de site. Ouais, ils sont extrêmement nombreux. En fait, ça vous arrive souvent. Moi, le nombre de fois que j'ai vu des téléphones à 1€ sur un site, j'aurais dit, écoutez, franchement, là, alors, théoriquement, on peut imprimer l'écran et on peut être en face de dire à un site e-commerce, vous faites une faute.
Je veux le payer 1€.
Exactement.
Vous pouvez
le payer 1€. Bon, donc. C'est Amazon.
Cela dit, parfois, vous avez des téléphones qui valent pas beaucoup plus cher, hein, mon cher Jean, avec toute l'amitié que je
veux. Oh, oui, oui, je vois ce que vous êtes en train d'envisager.
Votre Nokia 3310, là. Ouais. Enfin, cela dit, il remonte, hein, la cote de ce Nokia remonte.
Oui. Moi, je crois que c'est les téléphones un jour, ça va être comme les voitures. On aura des téléphones de collection.
Des téléphones de collection.
Ouais. Faut attendre encore un petit peu, mais notamment l'iPhone 3 que je garde. Celui-là, un jour, avec ses bords arrondis, il va progresser. Et donc, en fait, c'est quoi? C'est une application de crowdsourcing. Ça va vous permettre donc d'effectuer plein de tâches par des humains. Là, pour le coup, c'est pas des robots, contre une rémunération. Et donc, ils vont réussir à améliorer la qualité du web. Il y a évidemment un débat là-dessus, puisque vous pouvez l'imaginer, un outsourcing énorme de tas de personnes. Il n'y a pas de contrat de travail, c'est fixé, les prix sont fixés par les commanditaires, mais ça nourrit quand même un certain nombre de personnes qui utilisent vraiment ça. Donc c'est une tâche un peu cachée.
C'est un peu de l'ubérisation, encore une
fois. C'est l'ubérisation, en fait. C'est l'ubérisation, exactement. Ce que j'ignorais, c'est que ça a été lancé dès 2005 par Amazon. Donc en fait, on est en train de parler de quelque chose qui touche des milliers et des milliers de personnes et qui a plus de 10 ans, quoi, en fait. Donc
incroyable.
C'est vraiment un vrai phénomène que j'ignorais. Et alors le Turc mécanique, pour la petite histoire, c'était au départ une grande escroquerie, c'est-à-dire que vous jouez aux échecs en face d'un automate, un vrai automate, et même Napoléon a joué, il s'est trompé, et cet automate était extrêmement fort. Et donc on a l'impression que c'était un automate déguisé en Turc qui jouait contre vous, sauf qu'en fait en dessous il était dirigé sous la table par un joueur d'échecs professionnel qui comprenait exactement ce que vous faisiez.
Voilà. Ah d'accord.
Bon, donc ça c'était la rue du Turc mécanique.
Ça c'est pas mal ça. Ouais. Jean de Chambure, merci, et place maintenant donc à notre sélection de gadgets aux trouvailles d'Antoine Cyr, les amis. Antoine, vous allez commencer par quoi? Parce que je vois que vous avez plein de gadgets aux frétillantes à côté de vous.
Oui, alors j'en ai une qui me fait assez rire, oui. C'est la voix qui est réservée à l'écriture de texto. Alors vous savez, il y a la voix qui est la voix V-O-I-E. Hein.
Ah la voix, d'accord, pas avec le X à la fin.
Non.
D'accord. Donc oui, la voix.
Voilà. Encore faut-il, pour comprendre ce dont on parle, être un petit peu calé en orthographe.
Oui, c'est vrai. Mais bon, mais je pense que
l'immense majorité de nos auditeurs
le savent.
Le sont.
Bien
voilà.
Sûr.
Donc tout va bien. Alors, là, après, donc la voie réservée aux voitures, la voie réservée aux bus, la voie E réservée aux vélos, voici la voie E réservée aux marcheurs qui ont pour excroissance leur smartphone et qui envoient des SMS en permanence.
Ah, pendant qu'il marche. Ah oui.
Ça vous est jamais arrivé?
De quoi? D'envoyer un SMS pendant que je marche? Bien évidemment.
Ça vous arrive?
Mais je n'ai jamais eu d'accident.
Vous n'avez jamais eu d'accident.
Et pourtant,
vous arrêtez quand vous traversez la rue quand même.
Oui, bien sûr.
Ou quand l'ombre d'un poteau s'abat devant vous.
Oui, non,
pas
non,
le poteau, mais son ombre.
Vous avez remarqué, en fait, vous avez toujours le regard qui d'un coup scrute l'horizon et puis après revient sur l'écran.
C'est parce que vous êtes encore jeune. Parce qu'après, il va vous arriver quelque chose, ça va être les lunettes à verre progressif.
Ah.
Et alors là, vous allez découvrir qu'il y a une partie de votre champ visuel qui est faite pour voir loin et une partie de votre champ visuel qui est faite pour voir près. Et si les objets qui vous menace de près se trouve dans la situation dans la partie de votre champ visuel qui est destinée à voir loin.
Et là vous voyez rien.
Eh ben mon ami,
c'est pas joli joli.
Donc c'est pour ça il faut faire attention. Mais donc revenons quand même à nos moutons. L'Utah Valley University, donc pour éviter les bouchons dus aux étudiants qui écrivent des SMS sur les trottoirs ou qui consultent leur mail en marchant, donc cette université, alors là ils sont très polars, hein, c'est des universitaires, c'est quand même les futurs maîtres du monde,
hein, oui, puisque c'est l'excellence.
Voilà, c'est l'excellence. Et puis comme ils sont nés aux États-Unis, qui est particulièrement bien placé pour faire un pays qui est particulièrement bien placé, on l'a vu encore dernièrement, pour faire de ces têtes pleines les maîtres du monde. Bon bah voilà, là ça rigole pas, hein. Donc on veut pas les décourager, mais on leur donne donc cette voie spéciale. Donc les escaliers par exemple ont été divisés en trois voies distinctes, une pour marcher, une pour courir, parce que quand même aussi
oui, on peut courir bien sûr.
Mens sana in corpore sano. et puis donc il faut sur la troisième voie n'aller que si à écrire des textos on a.
Voilà.
Voilà.
Mais tout ça dans des escaliers?
Oui, dans les escaliers.
Parce que c'est pas facile d'envoyer un texto et monter les escaliers. Oui, je sais pas si vous avez déjà.
C'est sur les trottoirs et sur les escaliers.
Ah oui, d'accord. Voilà. Non, mais autant sur le trottoir, je veux bien. Mais sur les escaliers, c'est quand même assez
alors,
costaud, hein. Quand
personnellement,
même.
Mon analyse.
Oui.
C'est que c'est plus facile à faire.
Analyse
en montant,
à chaud, hein, bien sûr.
À chaud. Voilà. C'est que c'est plus facile à faire en montant qu'en descendant.
Ouais. Et en descendant, à mon avis, ça peut être très drôle.
Très drôle.
Si vous tombez.
Voilà. En montant.
Ouais.
Ça se tente.
Vous croyez?
Oui.
À
condition de bien lever les genoux.
Voilà. Bah écoutez, dites-nous, hein, si vous nous écoutez, vous réagissez sur l'atelier.net. Vous arrivez à envoyer des textos en montant les escaliers.
Bon, mais vous savez que ça n'existe pas seulement aux États-Unis. Ça existe aussi en Chine,
d'accord,
à Chongqing, où des promoteurs ont doté certaines résidences de voies réservées aux utilisateurs de smartphones.
Bon, faut-il s'en réjouir ou faut-il en être triste?
Je ne sais pas.
Voilà. Antoine, on revient dans un instant pour la suite de cet atelier numérique. À tout de suite, on est là dans une minute.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Dans un instant, notre enquête de l'atelier sur BFM Business dans cet atelier, et ça sera passionnant. On va parler de l'impact des écrans sur la santé visuelle, la vue des Français. Eh bien oui, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est tous rivés sur un écran, petit ou grand. Est-ce que ça a des conséquences sur notre vue? et sur la dégénérescence peut-être aussi hein, de notre vue. On verra ça dans un instant avec nos invités Jean de Chambure. Mais auparavant, c'est notre focus start-up et on va découvrir une start-up musicale étonnante, Lila, cette semaine.
Oui, François. Alors cette semaine, on va faire une espèce de retour vers le passé, le futur, puisque j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Josquin Farge. Bonjour.
Bonjour.
Tu faisais partie avec la start-up Sounds Good de la saison 6 du camping, nouvellement baptisé Numa Sprint. Tu es CEO de la start-up Sounds Good. Comment ça se passe depuis ?
Eh ben très bien. On est parti du camping il y a 3 mois, mais on reste. On a déménagé dans nos propres locaux avec 3 autres startups de notre promo du camping et on est à 200 mètres du camping. Donc globalement, on reste très proche de la famille.
Ah, est-ce que tu pourrais rappeler un peu le principe de Sounds Good ?
Sounds Good, c'est un service de curation musicale. Donc la curation, c'est le fait de sélectionner les meilleurs titres et d'en faire des playlists. Et l'idée, c'est on donne les meilleurs outils pour tous les influenceurs musicaux qui font cette curation musicale et on leur permet de partager leur sélection à l'audience la plus large possible. Aujourd'hui, l'industrie de la musique, l'industrie du streaming s'est construite en silo où chaque service représente une audience et nous, on veut permettre aux influenceurs musicaux de communiquer auprès des auditeurs de Deezer, de Spotify, de YouTube, SoundCloud, RDO et tous les services de musique.
Donc concrètement, pour se représenter, il s'agit d'une plateforme où je vais pouvoir agréger mes différentes playlists. Comment ça se passe concrètement ?
On conçoit Sounds Good comme le meilleur service pour les influenceurs musicaux. Donc ça peut être des DJ, chefs d'orchestre, artistes ou autres. Concrètement, ils ont des outils pour créer leurs playlists et les partager à toute leur audience. Ces playlists sont mises en avant sur leur propre site. On a un player multi-source, donc ils peuvent mettre leur playlist sur leur site et n'importe qui peut l'écouter, quel que soit son service de streaming. Mais ils sont aussi mis en avant sur notre média, soundsgood.co, qu'on veut un peu comme le Pinterest de la musique. On a 900 influenceurs en France qui utilisent notre service, parmi lesquels Les Un Rock, TV5 Monde, le Théâtre du Châtelet, My Little Paris et autres. Et ces playlists sont mises en avant donc sur soundsgood.co, où n'importe quel auditeur peut venir écouter ces playlists, connecter son service de streaming habituel et profiter de toutes ces sélections. Pourquoi pour nous, voilà, notre cœur de métier, c'est vraiment proposer les meilleurs services pour les influenceurs musicaux. Pourquoi ? Parce que à cette période où toute la musique du monde est accessible en un clic, on pense vraiment que le chaînon manquant, c'est ce curator. On doit donner on appelle un influenceur musical un curator. On doit lui donner le meilleur outil pour s'émanciper de toutes les contraintes techniques et pouvoir partager ses sélections. Il doit guider la découverte musicale de tous les auditeurs.
Mais est-ce que vous faites pas par là concurrence à l'embed playlist d'un Deezer ou un Spotify ou...
On a vocation à amener de l'audience pour tous les auditeurs d'un Deezer, tous les utilisateurs d'un Deezer, Spotify ou autre. On leur permet en fait d'accéder aux playlists des meilleurs influenceurs, même si à la base cet influenceur ne faisait pas ses playlists sur leur service de streaming. Donc on amène du contenu éditorialisé de qualité pour tous les auditeurs de Deezer, pour tous les auditeurs de Spotify. On doit être en complément de ces services de streaming qui ont des catalogues de 30 millions de titres, qui ont des belles expériences de découverte musicale en leur sein, mais on permet à tous les influenceurs musicaux en France et à l'étranger de proposer leur sélection musicale aux auditeurs de Deezer, aux auditeurs de YouTube, à tous les auditeurs.
Josquin Farge, merci. Je rappelle, tu es CEO de la start-up Sounds Good. Merci.
Lila Megraoua, merci. Et place donc à notre enquête de l'atelier sur BFM Business, Jean de Chambure. Nous allons parler de l'impact des écrans sur notre qualité de vision, en fait.
Exactement, François. Alors c'est vrai, on est tous digitaux. Les digitaux, on porte toujours à nos doigts ce qu'on va voir, un 6e pouce, est-ce qu'on est des petits poussés, enfin tout ça. On focalise beaucoup sur notre geste, très bien. Mais il y a aussi quelque chose de fondamental dans notre corps que sont les yeux, notre regard, notre capacité à voir. On est l'un et l'autre, François. Allez, dévoilons un secret. Nous avons l'un et l'autre des lunettes.
Oui, c'est un lourd secret. D'ailleurs.
C'est un lourd secret,
ouais,
fondamental.
On a du mal à.
Et donc on est.
Enfin, cela dit,
messieurs, vous nous le dire.
Je suis toujours nos invités aussi. C'est-à-dire
oui,
là,
on est tous, là,
statistiquement,
on
est quatre avec des lunettes.
C'est sympathique,
quoi,
ça. C'est... Donc, on sait de quoi on parle. Quand
on sait de quoi, enfin, oui, là.
Enfin, en plus, messieurs, et nous, un petit peu, en tant que, comment dire.
Et donc, là, on va parler de l'impact de tous ces écrans que l'on regarde à longueur de journée sur notre vue.
Voilà. Et, voilà. Et très probablement, ça change. En quoi ça change? Et est-ce qu'il y a des innovations qui vont nous permettre d'améliorer tout ça? Donc, on va se creuser ce sujet avec nos invités. On a le plaisir d'accueillir Ludovic Mathieu, qui est directeur général Décideurs France. Bonjour, Ludovic.
Bonjour.
À côté de vous, Ludovic Xavier. Xavier Subirana. Bonjour, Xavier.
Bonjour.
Vous êtes ophtalmologiste et président d'une association qui s'appelle Optique Solidaire.
Tout à fait.
Voilà. Alors, on va commencer par Ludovic, si vous voulez bien. Donc, Ludovic, vous représentez Essilor, vous êtes donc le directeur général France. Essilor, alors je ne le savais pas, mais en préparant l'émission, j'ai appris, grâce à vous, que vous êtes le premier fabricant mondial de verres correcteurs. Donc, c'est super, hein, une belle success story française, vous êtes partout dans le monde. L'un de vos leviers, c'est l'innovation pour aller toujours un peu plus en avant.
Exactement. C'est une société française qui a plus de 160 ans et qui est née d'une coopérative ouvrière et qui très tôt a fait le choix de l'innovation, de l'ouverture au monde et qui a gagné des positions année après année sur l'ensemble des continents. Et aujourd'hui, on a en effet le leadership mondial dans l'optique ophtalmique, donc l'optique correctrice.
Alors, vous avez publié une grosse étude sur les usages du digital, sur le lien avec tout ça. Vous allez nous donner des chiffres clés, bien sûr, mais d'abord, peut-être de manière très très concrète pour comprendre un peu. C'est-à-dire, moi j'ai toujours entendu ça depuis les 20 ans à peu près, François, je ne sais pas, mais dès qu'on avait nos premiers ordinateurs, on a dit attention, fais attention aux yeux avec ton ordinateur, sois pas trop près, est-ce qu'il y a des couleurs qui ne vont pas. Et en quoi ça a changé finalement depuis 20 ans? Parce que, est-ce que c'est pas une vieille lune?
Je dirais pas que c'est
est-ce qu'il n'aurait pas dû déjà changer il y a 20 ans, je ne sais pas.
Depuis des années, en fait, on s'intéresse de près à l'évolution des modes de vie et à l'apparition de l'ordinateur, l'apparition des écrans. C'est pas nouveau. Et depuis une dizaine d'années, on a lancé déjà des produits qui ont trouvé leur public, que ce soit Essilor Interview ou Varilux Computer, qui avaient pour objectif d'aider chacun à mieux gérer l'apparition de l'écran et son interaction avec l'individu. Donc ça, on l'a fait depuis assez longtemps. Ça a apporté des solutions. Simplement, on a depuis connu une prodigieuse révolution digitale, et ça c'est plein de bonnes choses que ça nous apporte, mais ça a amené également un usage beaucoup plus intensif des outils nomades, des outils digitaux, puis également une multiplication des écrans. Avant, vous aviez un écran, on vous disait mettez-vous bien en face de l'écran, il faut telle posture, etc. Tout allait bien. Aujourd'hui, on est multi-écran, on a une constellation d'écrans autour de nous, et le contenu va migrer de l'un à l'autre avec des tailles différentes.
Et les tailles sont pas toutes les mêmes.
Sûr.
Et la position qu'elle regarde.
Exactement, et des distances différentes.
Alors Xavier Subirana, vous êtes ophtalmo, la question, est-ce que tous ces écrans nous abîment la vue? Alors, à force de les regarder, ces écrans.
La réponse est non. Ça n'a pas d'effet délétère. Vous n'avez un écran ne va rien créer. Par contre, il va révéler des tas de choses. Il va, si vous avez un petit astigmatisme que vous compensiez très bien parce que vous aviez une vie tout à fait normale comme on l'avait autrefois, et que aujourd'hui vous avez beaucoup de... Vous travaillez sur écran un nombre d'heures absolument énorme, puisque les jeunes de moins de 24 ans, dans une étude récente, on a vu qu'ils travaillaient presque 8 heures par jour à jouer avec des écrans. Vous allez avoir une révélation du défaut visuel que vous avez.
C'est-à-dire que ça va augmenter l'astigmatisme ou alors on va le ressentir plus?
Vous allez le sentir, alors qu'avant, votre cerveau compenser et vos muscles compenser cet astigmatisme et vous aviez une vue parfaite, mais vous retrouvez à être obligé de le corriger parce que votre œil est fatigué. C'est de la fatigue visuelle que vous induisez. Et donc le message à passer, c'est que il faut être corrigé au maximum et en particulier, comme vous l'avez dit, sur les astigmatismes. Mais vous ne créez pas de pathologie.
On va parler de la solution, mais peut-être déjà en tant qu'usage. Est-ce qu'il y a des choses à faire ou à ne pas faire, c'est-à-dire une façon de regarder son ordinateur, une façon de prendre son téléphone un peu plus prudente que d'autres.
Voilà, un smartphone hyper lumineux la nuit, par exemple, alors qu'on est au lit et qu'on regarde les derniers mails ou les actus, est-ce que c'est bon, ça? Aujourd'hui, c'est une pratique qui est courante. Là aussi, il n'y a pas de souci.
Je pense qu'il y a un point que je voudrais compléter sur ce que disait le docteur Subirana, c'est que, en effet, ça va révéler un besoin visuel, ça va révéler des défaillances que vous aviez déjà, mais il y a quand même un élément complémentaire qu'apportent les outils digitaux, c'est l'émission d'une lumière éblouissante, d'une lumière nocive potentiellement. Vous avez sans doute vu, il y a eu pas mal d'études ces dernières années qui montrent que dans le spectre de la lumière, dans les couleurs de l'arc-en-ciel, en fait, hein, dans la lumière qui nous entoure, vous avez une frange de cette lumière qui va être nocive pour vos yeux et plus précisément pour votre rétine. Il s'agit du bleu-violet. Alors, ça se perçoit pas, le bleu-violet, mais il est partout. Il est dans ce studio, il est à l'extérieur. Et le bleu-violet, par accumulation, va avoir un effet sur votre rétine, et plus précisément, je parle sous le contrôle du docteur, sur votre macula. Ce qui fait que c'est l'un des facteurs aujourd'hui explicatifs de la dégénérescence maculaire liée à l'âge, parce que on accumule une exposition
bleu-violet.
Alors attendez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, mine de rien, les écrans, à terme, peuvent accélérer la dégénérescence de la vue?
C'est
ça?
Pas l'écran, c'est le LED.
Oui, mais enfin bon...
C'est les LED blanches froides.
D'accord, mais dans les écrans, il y a des LED blanches froides, on est d'accord.
Oui, mais le fait de travailler, bien sûr, ça c'est un des pôles, mais ce n'est pas les choses les plus importantes, c'est une chose entre autres, si vous voulez. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'effectivement, la lumière bleue pose des problèmes pour la DMLA... Mais c'est aussi...
La lumière bleue, pardon, je suis exprès très très concret, mais pour qu'on tout le monde comprenne bien. C'est de la lumière bleue quand l'écran est en veille. C'est cette lumière bleue qui est nocive ou c'est tout
non,
le temps
non. La en lumière... fait, elle est tout le temps là, elle est tout le temps diffuse, je pense.
Ah, donc, exactement. Dans la lumière donc ça, transparente vraiment... qui nous entoure, vous avez du blanc, vous avez du jaune, du rouge, du bleu, et vous avez toute cette frange de lumière. Et la partie qui est invisible, bleu-violette, elle est en permanence avec vous. Elle est particulièrement vraie avec les LED blanches froides, parce que ce sont des LED qui émettent beaucoup dans cette frange-là de la lumière. À côté de ça, ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est qu'il y a une partie du bleu, le bleu turquoise, qui lui va être essentiel, parce que c'est celui qui va vous permettre de mettre à jour votre horloge biologique interne. C'est ce qui explique les décalages horaires, par exemple, parce que si vous n'avez pas recueilli suffisamment de bleu turquoise, vous aurez une difficulté. Donc il faut laisser passer la lumière.
Donc si je prends l'avion, des longs trajets, et je me mets un fond d'écran turquoise et ça va mieux sur mon smartphone.
C'est les principes de la luminothérapie.
Vous pouvez ouvrir le hublot aussi, François.
Ouais. Bon, il faut attendre que l'avion atterrisse.
Mais enfin, ça dépend des horaires aussi, c'est vrai.
C'est sûr, on est d'accord.
Alors, c'est passionnant.
En tout cas, on a mesuré.
On va resserrer un peu tout ça, parce qu'on a plein de questions dans tous les sens, mais c'est hyper intéressant. Il y a une question, alors ça fait un peu âge de pierre aussi, mais le jaune, à un moment donné, moi j'étais correcteur de nuit dans la presse, on avait des papilles jaunes. Jaune clair, parce qu'on dit que c'est mieux pour les yeux. Ça, est-ce que par exemple, mettre un écran jaune clair, c'est intéressant ou pas du tout?
Ben, le jaune coupe le bleu.
Oui, donc est-ce que ça fatigue moins? Est-ce qu'il faut mettre nos écrans en jaune clair?
Oui, parce que il faut pas le faire du tout, mais si vous voulez, c'est tout simplement parce que le bleu jaune, c'est la couleur de la macula. Vous voyez, et donc vous voyez avec la macula en bleu jaune, alors que c'est beaucoup plus facile pour vos yeux. Mais
La couleur complémentaire,
c'est pas la solution.
C'est la couleur complémentaire,
mais c'est pas la solution.
Mais okay. Qu'est-ce qu'on peut faire pour nous tous qui sommes des heures et des heures devant des écrans? Est-ce qu'il y a des dispositions à prendre? Est-ce
moins
qu'il y a des
lumière,
choses qu'il
déjà,
faut faire attention?
Une intensité lumineuse moindre, comme l'évoquait François Sorel.
Il faut surtout aussi penser que la position est importante. C'est-à-dire, les gens ne pensent pas à positionner leur écran. Or, vous n'êtes pas dans la même position quand vous êtes avec une tablette, quand vous êtes à un écran d'ordinateur, ou quand vous regardez votre montre connectée. Là, vous êtes très près. À l'écran, vous êtes en position verticale. Ou presque verticale, et donc vous avez des distances très différentes. Donc vous allez avoir, si vous êtes, quand vous avez plus de 45 ans, que vous êtes en plus presbyte, vous n'allez pas vous retrouver à la bonne distance avec vos lunettes.
Ouais.
Donc vous allez être obligé de rectifier avec le cou. Et rectifier avec le cou, ça explique que vous avez beaucoup de gens qui, travaillant sur écran, se retrouvent avec des douleurs cervicales, se plaignent d'autres problèmes qui ne paraissent pas liés aux yeux et qui sont finalement liés aux yeux.
En fait, il n'y avait pas de documentation sur ce sujet-là. Et Essilor a décidé de réaliser une très grande étude il y a quelques mois pour essayer d'objectiver finalement ces phénomènes, cette fatigue visuelle, ces douleurs au cou, ces douleurs aux épaules. Alors, on sait que 95% des personnes ressentent des effets sur leurs yeux et sur leur posture de l'exposition aux écrans. On sait qu'il y en a les trois quarts qui souffrent de fatigue visuelle. 70% douleurs au cou ou aux épaules. Donc on a essayé de l'objectiver et on a créé pour ça un programme de recherche avec un laboratoire spécifique créé pour l'occasion sur lequel on a placé des utilisateurs d'outils digitaux en conditions réelles. Avec diverses tâches à effectuer, chercher les prévisions météo, lire un email, jouer à un jeu vidéo, et ce dans différentes positions. Debout, assis dans un canapé, couché. Et on avait placé des capteurs, il y avait 8 capteurs sur chaque individu, et puis avec des caméras infrarouges, on a enregistré en continu l'ensemble de ces données. D'accord. Et ça nous a permis, en fait, de découvrir des choses extrêmement étonnantes et qui nous permettront, qui nous ont permis de développer des verres de lunettes très particuliers.
Alors, parce que, donc, votre concept, c'est le fait de se dire qu'il y a des verres aujourd'hui qui permettent d'atténuer ces effets, entre guillemets, nocifs des écrans qu'on consulte à longueur de journée.
C'est pas que les écrans, c'est l'ensemble d'usage des outils digitaux. On utilise beaucoup plus en multi-écran avec les émissions notamment de lumière vive.
Mais
c'est
en pas direct que ça. Et en indirect aussi.
C'est-à-dire en direct
non seulement
et en
on a
indirect.
Des écrans, là nous sommes dans un studio où on a des écrans qui fonctionnent à côté. Enfin, on est dans un monde hyper connecté. Donc c'est très très fatigant.
On a une utilisation banalisée de des outils. On a une utilisation intensive, répétée. On va passer d'un écran à l'autre.
Vous êtes en avance,
non
vous avez
etc.
Un temps d'avance par rapport à vos concurrents sur cette approche.
Ah oui, je l'espère, oui, bien sûr. Donc cette étude, en fait, avec ces capteurs, on a pu découvrir des choses assez, assez intéressantes. La première, c'est que quand vous êtes sur un outil digital, vous n'allez pas avoir la même distance de lecture. Ça, c'est nouveau parce qu'on va utiliser une zone de vision ultra rapprochée. On va prendre une vision rapprochée pour regarder un smartphone ou une tablette. Sur un papier, en général, c'est 40 cm. Sur un outil digital, vous allez être à 33 cm.
Et donc ça, c'est le constat. Mais il faut être à quelle distance, en fait?
C'est pas qu'il faut être à quelle distance, c'est que l'individu va l'utiliser.
D'accord.
Mais c'est une très bonne question, parce que les yeux sont faits pour regarder en vision de près entre 30 et 50 cm, mais sont faits pour regarder en convergence, puisque pour regarder de près, vous avez les deux yeux qui convergent et qui s'abaissent, et la pupille qui se resserre. Mais en réalité, si vous regardez bien votre tablette, vous la posez ici, elle n'est pas en bonne position. Vous avez l'écran qui est devant, vous n'êtes pas en bonne position. Donc, en réalité, vous ne vous trouvez jamais, et donc c'est votre accommodation que vous sollicitez. Donc, vous vous fatiguez. En plus, l'œil ne cligne beaucoup moins quand vous êtes en train de fixer. Donc, vous balayez moins et les larmes circulent beaucoup moins.
Ce qu'on entend par accommodation, c'est la mise au point. C'est comme l'autofocus d'un appareil photo. En permanence, votre œil va faire la mise au point. Donc, le premier enseignement, c'est qu'on va regarder de très près. Et dans le même temps, on va pas regarder avec la même port de tête. On va beaucoup plus baisser la tête.
Beaucoup plus, ouais.
Et c'est ce qui nous a amené à développer la technologie Eisen.
Eisen, voilà. Bah, vous l'avez nommé. On voit tout son intérêt. Merci beaucoup, en tout cas, messieurs, pour cette explication. Un peu ce tour d'horizon sur les nos chers yeux. Il faut quand même un petit peu...
J'allais dire, on y voit plus clair.
Parce qu'il faut prendre soin de nos yeux, oui. Prenons soin. Merci beaucoup. Donc, Ludovic Mathieu, directeur général d'Essilor France, et Xavier Soubirana, donc ophtalmologiste et président de cette association qui s'appelle Optique Solidaire. Merci.
Merci à tous les deux.
Merci à vous.
Et on revient dans un instant. La suite de cet atelier sur BFM Business, ça sera notre web stratégie et on va s'intéresser à la transformation numérique d'Engie. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Dans un instant sur BFM Business, dans cet atelier, ce sera notre passion selon Sanet, mais auparavant notre web stratégie. On s'intéresse cette semaine à la transformation numérique d'Engie et c'est avec vous Lila Megrawa et votre invité.
L'atelier numérique sur BFM Business, la web stratégie.
Oui François, alors cette semaine on va s'intéresser à la stratégie digitale, la transformation digitale d'Engie. Pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Marc Florette, bonjour.
Bonjour Lila, donc je suis Chief Digital Officer d'Engie, un groupe spécialisé, donc comme vous le savez, dans l'énergie, l'électricité, le gaz, mais aussi les services à l'énergie.
Alors, racontez-nous un peu quand et comment Engie a amorcé son virage digital. Est-ce que dans son cas, on peut parler de virage?
Je crois qu'on peut parler de virage, en fait. Pour nous, le digital, en fait, c'est pas une option, on comprendrait ou comprendrait pas, c'est vraiment une nécessité. On sait qu'actuellement, pour nous, le digital, finalement, c'est au moins 6 objets, 6 façons de se comporter. C'est tout ce qui est mobile device, les smartphones, les tablettes, qui se développent énormément, tout le monde le sait. C'est les réseaux sociaux, externes ou internes. C'est les objets connectés. Hein, dont on sait qu'il en existe maintenant des milliards. C'est aussi tout ce qui est valorisation de données, les algorithmes, les plateformes de traitement de données. C'est les réseaux aussi physiques qui permettent de transiter beaucoup de données. Ça, souvent, on l'oublie. Et puis, la dématérialisation aussi de tous les processus. On pense souvent à certains processus pas forcément agréables, comme les impôts en ligne. Mais enfin, ça permet aussi d'être plus efficace. Et en tout cas, c'est une façon d'aider aussi finalement les citoyens. Il y a d'autres applications sans doute plus glamour.
Alors, vous évoquiez l'évolution des métiers, enfin la partie métier. Est-ce que d'ailleurs chez Engie, on peut parler d'une évolution de vos métiers au contact du numérique, voire l'émergence de nouveaux métiers?
Alors oui, c'est tout à fait le cas. Ce que je dirais, c'est que bon, j'ai été nommé par Gérard Mestrallet auprès de lui, donc en avril 2014, c'est récent, mais le virage d'Engie ne date pas de cette époque-là. En fait, la première chose que j'ai faite, c'est une cartographie. Et on s'aperçoit qu'on a déjà plus de 300 initiatives digitales. Donc, ça foisonne. Beaucoup partent du terrain, et tant mieux. Il faut que ça continue. Il faut que peut-être rééquilibrer avec des initiatives qui vont venir du haut, effectivement, pour aller dans le sens que vous venez de dire, soit pour inventer de nouveaux métiers, soit au contraire pour améliorer, finalement, nos métiers existants. Métiers existants... nos métiers, finalement, on a deux grands métiers. On a un métier de relation avec le client, donc la relation B2C, hein, la relation avec chacun d'entre nous est consommateur d'énergie. Toujours dans la relation client, il y a le B2B, c'est-à-dire la relation avec des clients d'affaires. Ça peut être aussi le B2I, c'est les administrations, les collectivités locales. Et puis toute une déclinaison dans le B2B2C, le B2A2C, c'est-à-dire avec une intermédiation. Donc on voit bien que ça, c'est une dimension très grande pour nos métiers et où le digital joue un rôle très important. Et puis on a un deuxième grand métier, qui est ce qu'on appelle les opérations. Alors ça, c'est moins visible du grand public. Il n'y a pas de relation directe avec les clients. C'est opérer des centrales électriques, c'est opérer des réseaux gaz, c'est opérer des infrastructures industrielles. Et ça fait partie d'un des cœurs de métier du groupe Engie.
Concrètement, est-ce que vous auriez en tête peut-être de nouveaux produits, de nouveaux services qui ont émergé avec cette mutation?
Alors, dans les nouveaux produits et services, on s'intéresse beaucoup à un sujet qui est à la mode, mais qui est à la mode parce que ça correspond à une nécessité. C'est la ville de demain, c'est la Smart City. C'est un sujet donc qu'on a commencé, sur lequel on travaille, sur lequel on a des offres. Et actuellement, on a une soixantaine de villes ou de territoires, je dirais, en France, qu'on a abordés avec une signature récente qui concerne d'ailleurs la ville de Mulhouse. Et donc, on essaie de effectivement d'aider les villes à se structurer. C'est en France, mais c'est aussi à l'international. On a gagné récemment un appel d'offres pour la ville de Barcelone pour structurer une plateforme qui accueille un certain nombre de données. Alors, à quoi ça sert tout ça? Parce que finalement, ça peut rester un petit peu abstrait. En fait, une ville, c'est comme une entreprise. Elle a des clients, c'est les citoyens. Comment on améliore la vie des citoyens? C'est un des buts de la ville et le digital, il peut aider beaucoup. Par une interaction entre les citoyens et le maire, les services municipaux. Donc ça, c'est un premier aspect. On retrouve finalement la structure d'une entreprise avec sa relation avec les citoyens, les administrés. Et puis, un autre aspect qui est le bon fonctionnement des services. C'est un peu l'équivalent de ce que je disais tout à l'heure pour une entreprise. C'est finalement les opérations. Comment on améliore cette efficacité? Et dans ce cas-là, l'efficacité des services, c'est par exemple faire en sorte que les données publiques, les données connues des services de la commune, les données des concessionnaires qui travaillent pour la mairie, mais aussi ce qu'on appelle l'open data, c'est-à-dire les données venant de l'extérieur, mais néanmoins publiques, voire privées, en les achetant, ben tout ça, on arrive à les mettre ensemble et ça apporte un plus, soit une meilleure efficacité, soit un meilleur service aux citoyens. J'ai été frappé d'ailleurs de voir, on est récemment, parce qu'on adore se benchmarker et je crois qu'il y a de bonnes idées partout. On a récemment rendu visite à la ville de Boston. Ils ont créé aussi un service de visualisation pour les citoyens qui leur permet de voir en temps réel, alors c'est l'hiver évidemment, les routes enneigées, à tout moment, ils savent ce qu'il en est. Et nous, de la même façon, on a développé des services qui permettent de visualiser tous les bâtiments dans une ville de façon à pouvoir faire soit des diagnostics énergétiques, soit regarder un petit peu la propagation du bruit en fonction des immeubles, de revêtement de la chaussée. Bon, c'est deux exemples concrets. Mais évidemment, tout ça, ça n'a de limite que l'imagination, finalement, et la créativité de ceux qui travaillent dans ce domaine.
En 2015, en matière d'innovation, quels sont les grands chantiers d'Engie?
Les grands chantiers d'Engie, je crois que j'en citerai deux grands. Il faut qu'on accélère dans le digital. Alors pour accélérer, pour moi, il y a deux ce qu'on appelle deux enablers, c'est-à-dire deux leviers. C'est d'une part une meilleure maîtrise des data et comment faire des corrélations, comment utiliser toutes les méthodes statistiques, comment avoir les bonnes compétences, tout ce qu'on appelle les data scientists qui maîtrisent à la fois les notions d'algorithmique, de méthodes statistiques, mais aussi de codage, de langage, tout en tenant compte aussi des métiers dans lesquels ils évoluent. Autrement dit, on ne veut pas que de purs savants, il faut qu'ils soient reliés à notre business. Le deuxième grand levier, et qui à mon avis est capital dans la transformation numérique d'une entreprise, c'est le levier culture, c'est le levier management, c'est le levier RH. Et là, on fait beaucoup de choses et on va en faire beaucoup, que ce soit en matière de formation, de sensibilisation, d'exemplarité du management. Je vous cite un exemple. On a pensé que le top management devait donner l'exemple dans le digital. J'ai proposé une mesure qui a été adoptée, qui est en cours de déploiement, qui est le reverse mentoring. Le mentoring classique que tout le monde connaît, c'est quelqu'un d'expérimenté, donc d'un certain âge, qui va aider un jeune ou une jeune, je dirais, dans sa carrière. Et ça, en dehors de tout lien hiérarchique. Là, comme il s'agit de digital, on inverse. Et donc c'est un jeune, une jeune, et je sais que ça existe dans d'autres entreprises. On n'a pas inventé ce concept, mais simplement, il nous a séduit. Et donc, on l'a appliqué, on est en train de l'appliquer au top management, au top 130, et on va continuer, je dirais, de façon à ce qui est non seulement une sensibilisation, mais que le management, finalement, il soit proactif dans la transformation digitale du groupe.
Marc Fleurette, merci. Je rappelle, vous êtes directeur digital du groupe Engie.
Merci Lila. On revient dans un instant. Autre transformation digitale intéressante, c'est celle de la Poste. Ce sera notre passion selon Sanet, et c'est dans un instant sur BFM Business. À tout de suite.